Alors, en fait, la paracha de Bereshit, elle nous a parlé donc d'un commencement, si on traduit Bereshit par commencement, ce qui n'est pas du tout évident, mais en tout cas, donc, un espèce de récit qui commence et elle termine par un constat d'échec. Et Akadosh Baruch Hu décide de détruire ce monde qu'il a créé en Bereshit. Donc, un cycle, il y a un cycle complet. Chazal disent que entre Adam Harishon et Noach, il y a 10 générations. Alors, dans ces 10 générations, il s'est passé quelque chose qui va, si vous voulez, dans le sens opposé à ce qu'on dit toujours. On décrit toujours une humanité qui est d'abord idolâtre et qui petit à petit découvre éventuellement des formes plus élaborées, puis après peut-être un monothéisme. Et peut-être même la Torah. Dans le cycle qui est décrit dans Parashat Bereshit, c'est pas comme ça que ça se présente. Parce que Adam Harishon, qui a été créé par Hachem, il connaît Hachem. Donc on commence par une situation d'extrême proximité avec Hachem, mais qui est de cette créature, cet homme-là, cet Adam, en fait, avec qui va décider de ne pas faire ce qu'Hachem lui a demandé de faire. Et petit à petit, au fur et à mesure de ces 10 générations, il va y avoir une dégradation telle que le projet divin n'est pas réalisable. Hachem décide de OK, je détruis tout ça. Alors, il y a un tout petit élément d'espoir, enfin, ou de positivité, c'est que Hachem a trouvé quelqu'un qui pouvait éventuellement assurer une nouvelle création de l'homme, en fait, une nouvelle création du monde. Parce qu'avec Noah, dont on va voir exactement pourquoi il a été choisi, c'est-à-dire qu'on verra que on ne sait pas vraiment pourquoi il a été choisi, mais bon, Noah, il s'avère que avec Noah, Hachem va recréer le monde et si la première création, elle s'est faite avec, disons, deux êtres, Adam et Chava, la nouvelle création, elle va se faire avec Noach et son épouse, avec les trois fils de Noach, qui sont sauvés parce qu'ils sont mineurs, et leurs épouses. Et donc, c'est l'élément de base, au lieu d'être Adam et Chava, c'est Noach, ses trois fils et leurs épouses. Mais d'une certaine manière, Noach, il n'est pas sauvé directement. Il va y avoir quasiment une année durant laquelle il va falloir qu'il fasse ses preuves, si on peut parler comme ça. Il va être soumis à une épreuve gigantesque en réalité, parce qu'il va devoir s'occuper du monde. Il va devoir s'occuper des autres, en fait. Ça va être un full-time job parce que y a des animaux auxquels il faut donner à manger la nuit, de ceux qui vont 2 jours, etc. les animaux ne sont pas très patients. Un jour noir va être en retard et le lion va pas apprécier et il va le faire de lui un balmoum en fait. Il va faire de noir quelqu'un qui est touché physiquement de telle sorte que en réalité, quand noir va vouloir après le Maboul, il va vouloir apporter un corban, il ne pourra pas faire le corban lui-même. Parce qu'il a un balmoum. Comme les Kohanim, un Kohen ne peut pas avoir un moum. S'il a un moum, il ne peut pas faire la avoda, il peut faire des travaux annexes, etc. Mais la avoda elle-même, il ne peut pas la faire. Eh bien, noir est handicapé à la suite d'un retard. Le lion, il n'a pas compris le retard, et donc voilà, il lui a donné un coup de patte. Et les coups de patte des lions, c'est voilà, ça l'a handicapé, ça l'a rendu Baal Moum. En tout cas, il a eu toute une année de travail pour les autres, si on peut, et pas n'importe quels autres, toute la création quasiment. Et en fait, Hachem, quand il a choisi Noir, si on peut parler comme ça, il lui a ordonné de construire cette fameuse arche. Et Noir va construire cette arche sous les quolibets de tous les gens qui lui disent que complètement débile, etc., que c'est pas vrai, qu'il n'y aura pas de Maboul, etc. Et lui, il continue. Mais quand il est présenté dans la Torah, on le présente, et en fait, on présente, la Torah, elle commence pas par parler de Noir. La Torah, elle ne nous dit pas, il est Noir. On parle tout de suite des toldot de Noar. Bon, on a dit dans la parasha de Bereshit que Noar est né, etc. Il a trouvé grâce à Hachem. Mais la parasha de Noar, elle commence, elle est toldot Noar. Alors, donc ce qu'on va nous présenter, ce sont les descendants de Noar. Et pour présenter les toldot de Noir, il faut nous dire quelque chose de Noir qui va d'une certaine manière nous aider à comprendre ce que sont les toldot de Noir, va nous aider à comprendre les qualités et défauts des enfants de Noir. Et en fait, les enfants de Noir vont s'inspirer de leur père, mais chacun va développer à sa manière ce qu'il a vu chez son père. Alors, la Torah, elle n'a pas pris le temps, si vous voulez, d'expliquer Noach comme qu'on va expliquer Abraham. Bon, alors évidemment chez Abraham le problème c'est que jusqu'à ce qu'on arrive aux descendants d'Abraham, ça prend beaucoup de temps. Alors Rav David Feinstein, c'est qu'on voit, il présente les choses de la manière suivante. Il dit que elle est toldot noir, noir ish tzadik haya, ish tzadik tamim haya bedorotav, et ha Elokim mitzalech noir. C'est ça l'introduction. Alors il dit, les toldot de noir ressemblaient à noir. En quoi? Ressemblaient à noir? Qu'est-ce qui se passe?
Bon.
Si c'est important, parlez. Si ce n'est pas important, alors fermez le micro. Alors, les Toldot de Noach lui ressemblent en ce que ils ont pris sur eux cette Madrega, ce niveau de Et Elokim Italer Noach. Alors, vous vous souvenez certainement que la partie du passage qui dit Et Elokim Italer Noach, Noach marchait avec Hachem. Chazal disent, voilà, Noach il marchait, mais il marchait parce que Hachem lui tenait la main, en quelque sorte. Et c'est tout de suite mis en opposition avec ce qui est dit sur Abraham Avinu, qu'Abraham, lui, il marche devant Hachem. C'est-à-dire, Abraham, si quelqu'un marche devant Hachem, ça veut dire qu'il est en train d'inventer. Il y a ce qu'il sait d'Hachem, et il invente. Mais il invente évidemment en vérifiant que ce qu'il a inventé n'est pas en contradiction avec ce qu'il sait déjà d'Hachem, avec ce qu'Hachem a accepté de faire un pas, vérifie, une espèce de feedback pour regarder ce qui se passe. Et puis bon, alors ça marche. OK, alors on peut faire un autre pas. C'est-à-dire qu'en fait, Avraham Avinu, c'est un créatif, alors que Noach, c'est quelqu'un qui fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il le fait très bien, mais il fait rien de plus. Et c'est pour ça que Noach ne devient pas un patriarche. Parce que comme il fait rien de plus, il prend aucune initiative, il s'occupe pas des gens. C'est vrai qu'il a construit sous les quolibets, mais il s'est pas occupé de les sauver. Il n'a pas prié pour eux, en opposition à ce qu'Abraham Avinu a fait. On verra après ça, comme j'ai avant envie de passer. Yitzhak Avinu, il a inventé de faire les choses d'une façon différente, puisqu'il les a fait avec Gvoura plutôt que Chesed. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire Ovdim, Aribon Sholam, on sert Hachem et Mekablim Sachar. Il savait que voilà, il y a un salaire, il y a une récompense. Si Akadosh Baruch Hu leur dit de faire quelque chose, je réponds, alors on le sert. Si Hachem ne répond pas, alors on le sert pas, ça veut dire. Mais chacun des fils va recevoir cet enseignement, c'est-à-dire ils savent très bien qu'il y a une récompense, le cas échéant, et chacun va le recevoir à sa manière. C'est pour ça qu'on lui dit tout de suite, ici, que Noach, il a, Vayoled Noach, Shlosha Banim, et Shem, et Ham, et Yafet. Noach a donné naissance, enfin, il a eu trois fils. Ils sont appelés donc Shem, Ham, et Yafet. Tous ont pris ce, mais à l'air, cette façon de dire que si, enfin, savait que Hachem récompense ceux qui font bien et il sanctionne ceux qui font des choses qui sont pas conformes à la volonté d'Hachem. Mais ça va donner trois façons complètement différentes de faire les choses. Shem, c'est celui-là, on sait que c'est le bon parmi les trois fils. Il a vu chez son père qu'on faisait les mitzvot et que on recevait des récompenses. Il a vu le niveau de son père. Et à Elohim Yitalech Noach. Et il a compris que cette chose-là, il fallait la comprendre un peu plus profondément. Le fait qu'ils vivent, c'est-à-dire, ils sont des survivants, n'est-ce pas? Les fils de Noach sont des survivants, des antédiluviens survivants. Par conséquent, le fait qu'Hachem va penser que puisqu'Hachem l'a laissé en vie, c'est un salaire, c'est une récompense qu'il a reçue, et il se doit de continuer de faire des mitzvot. Il s'est dit, bon, alors si HaKadosh Baruch Hu m'a promis 1 million de dollars si je fais sa volonté, et il m'a déjà donné la vie, donc je peux vraiment attendre qu'effectivement il va me les donner, ce qu'il m'a promis. Et on peut même dire qu'il me les a donnés à l'avance. La vie, c'est plus que les biens matériels. Et donc, comme ça, il a grandi, il a atteint une madriga supérieure à celle de son père. Son fils, Ham, lui aussi, il a vu son père. Il a vu son père, il a vu que son père était Eta Elohim Italer Noach. Il a compris que s'il fait la volonté d'Hachem, il aura des récompenses. Mais il a calculé, il a fait un compte, et il s'est dit que la jouissance de ce monde-ci, bon, c'est beaucoup plus agréable, ça vaut plus la peine que de faire des mitzvot. Il y a un chazal dans Pirkei Avot qui dit « Eveh mechashev schar avera keneged hefseda ». Regarde ce que tu as à gagner, à ne pas transgresser par rapport à ce que tu vas perdre si tu transgresses. Il a regardé la hana'a, il a regardé la jouissance, le plaisir au moment où on fait cet acte d'avera. Il a trouvé qu'il y avait plus de plaisir à faire la avera que ce qui pouvait se compter comme récompense. La Avera, c'est plus agréable. Il sait qu'il y a des conséquences négatives. Mais comme le drogué, il sait très bien qu'il y a des conséquences négatives. Mais il y a tellement de jouissance quand il prend la drogue que, ben voilà, il cède, il prend la drogue. Il sait qu'il va souffrir après. Mais il la prend quand même. Et le fils Yéfet, lui, c'était la copie conforme de son père. Il a l'air avec Elohim. Yéfet, c'est la chaîne Yofi, la beauté. Aux yeux de Yéfet, les mitzvot, elles sont belles. Pourquoi? Parce qu'elle donne un bon salaire. Donc il continue de faire comme son père. Et c'est ça l'introduction, si vous voulez, à Elle est Toldot Noach, Ish Tzadik Tamim Dorotav et Elohim Italef Noach. Le passage qui ne vient pas nous raconter faire des éloges et raconter des bonnes choses. Il vient nous dire comment les trois fils de Noach sont devenus ce qu'ils sont devenus. Ils sont trois. Et le passage dit, Umehelen, et c'est à partir d'eux que le monde entier s'est développé. Donc nous sommes les descendants de ces trois-là, l'humanité est descendante de ces trois-là, c'est-à-dire que dans l'humanité, il y a trois façons principales de vivre qui correspondent à ce qu'on a dit sur les trois fils de Noir. Tout a commencé. Pourquoi les gens sont différents, etc. Ça vient des différences qu'il y avait. Pardon? Bon, elle n'apparaît pas encore, mais vois qu'il y a quelqu'un. Je sais seulement qu'il y a quelqu'un, mais je peux pas. Ouais, mais je peux pas la faire entrer puisque j'ai pas sur quoi appuyer pour la faire entrer. Mais si ça se trouve, maintenant elle va. Non, ça a disparu. Bon, je pense que ça va revenir.
On peut poser une question?
Oui, posez.
Et les trois fils, ils sont identifiés avec Noir. En quoi Ham s'identifie avec Noir s'il a choisi Tanugeya ou Lamazé?
Oui.
Quel aspect de Noir nous montre dans sa vie que Noir, il allait dans le sens de Tanugim, qu'il s'est saoulé, le fait qu'il s'est saoulé?
Oui, ça dit que.
Qu'est-ce qui, dans la conduite de Noah, montrait qu'il allait vers l'état anodin? Est-ce que c'est le fait qu'il s'est souillé?
Non, non, lui, de Noir, on ne savait pas. C'est pas marqué que Noir lui-même, il allait vers l'état Anoukim. Mais Noir, il a expérimenté que quand il faisait les mitzvot, il y avait des récompenses. Et donc les enfants, ils ont vu ce qui se passait. On ne dit pas qu'il est allé vers l'état Anoukim, Noir. Mais les filles, il y a un fils qui lui a compris que, OK, c'est ça, mon père, il fait comme ça. Alors, bon, il y a des récompenses, mais il a fait le cheshbon, il a fait le compte, et sa façon de faire le compte, ça a débouché sur, ben, je choisis de faire les averot, et je préfère la jouissance que me donnent les averot à la jouissance que me donneraient les récompenses si je faisais les mitzvot. Alors, Elohim, c'est donc la Midat Hadin, la rigueur, parle à Noach et lui dit, voilà, qu'est-ce que le bassin bal panaï? Bon, c'est, j'ai décidé de tout détruire. Ani, ineni, mashritam, et aaretz. Qui? Ouais, je peux pas les lire. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est dans le. Ah voilà, maintenant on n'a peut-être plus. Voilà. OK. Non? Ça marche. Non, cette fois-ci, je l'ai vu et j'ai plus la. Il y a des choses que je peux faire, mais ici je peux rien faire. Surtout que cette fois-ci, je l'ai fait entrer. Ah voilà, elle est là. Elle est là.
Oui, ça y
Bonjour,
est, je
Claire.
suis là. Bonjour,
Ah.
bonsoir.
OK. Bon, alors il lui annonce qu'il va détruire le monde. Et il lui dit de, voilà, Aselcha Tevat Atsegofer, Kinim Taseta Teva, construis-toi une arche. Et puis il lui donne Donc des indications sur la façon de la construire. Il lui donne des dimensions, etc. Tout le détail, bon. Et il lui dit, quelque chose de complètement nouveau. Il y a un mot qui n'existait pas jusqu'à présent, qui va être utilisé. Akadosh lui dit dans le verset Yud-Zayin, non, pardon, dans le Yud-Chet, Iva kimoti et briti itach. Et il lui annonce, il parle d'un brit, d'une alliance. Jusque-là, il n'y avait jamais eu d'alliance. Hachem, il n'a pas fait d'alliance avec Adam. Et là, il dit, je vais faire une alliance avec toi. Alors, une alliance faite par Hachem, c'est très très important parce que il est évident que si Hachem s'est engagé par alliance, il va pas se désengager. Donc, ça assure une relation de fidélité, en quelque sorte. Donc, ça, c'est vraiment très très important. C'est la première occurrence d'alliance, elle a lieu avec Noach. C'est-à-dire, dans le nouveau monde qu'Hachem a créé, il y a une notion d'alliance qui n'existait pas dans l'ancien monde. Alors, il va construire une arche. Alors, dans cette arche, c'est pas simplement un fourre-tout où on va faire entrer tout le vivant. Ça va être très structuré. On va faire la différence entre les uns et les autres. Et donc, bon, c'est très très important. C'est pas un tohu-bohu qui dans lequel il y aurait tout le vivant et puis bon non c'est très structuré. Et puis il y a une chose qui va être très importante. Noir va faire ce qui lui a été demandé. Les animaux vont venir, etc. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, quand il lui a dit, Vakimoti et Briti Itar, Uvata et la Teva, et tu entreras dans l'arche. Et ce verset, il est dit alors qu'il ne pleut pas. Le Maboul n'a pas du tout commencé. Noach, il a reçu l'ordre d'entrer dans l'arche alors que tout était sec. Et plus bas, dans le passouk, le chapitre suivant, Zayin, le passouk Vav, Venoach ben Shesh Mot Shana, Ve'amaboul aya maim ala haaretz, et le Maboul a commencé, Vayavo Noach uvanav ishto, unshev anavito, et la teva, mipne me amaboul. Il est entré dans la teva, parce que il a commencé à pleuvoir. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait ce qu'Hachem lui avait dit. Hachem lui avait dit, entre dans la Teva avant même qu'il ne. Lui, il est entré que quand il a vu la pluie. Et c'est pour ça que Rashi dit, dans le. Il dit, Rashi dit que Mipne me amaboul af Noach miktane amana haya. Finalement, Noach, il faisait aussi partie des gens qui avaient peu de émouna, peu de confiance en Hachem. Ma'amin ve'eno ma'amin. Il a confiance et il n'a pas confiance dans le fait que le Maboul va venir. Donc il a construit pendant 100 ans, 120 ans, il a construit l'arche parce qu'Hachem lui a dit qu'il allait avoir un Maboul et qu'il faut qu'il construise, mais en fait il n'est pas encore convaincu. qu'il y aura vraiment un maboul. Lo nichnas la teva atche darku amaim. C'est les eaux qui l'ont. Le déluge a commencé, il était obligé de se réfugier dans l'arche. C'est curieux, c'est quelqu'un qui est capable de construire, etc. Mais avec tout ça, il n'est pas convaincu. Pas complètement convaincu. Donc il entre dans la Teva. Et dans cette Teva, il y a évidemment tout ce que Hachem avait prévu qu'il y aurait.
Il
Y avait aussi les végétaux, oui. Oui, semble-t-il. Oui. Noir est un avis. Oui, il a donné un ordre, il a parlé. Oh, c'est. Il y a un certain bonhomme, Adam Arichon, Hachem lui parle, il fait le contraire de ce. Sinon, il aurait fallu recréer les animaux. Pourquoi?
Avoir fait des animaux purs et impurs, et pourquoi avoir maintenu cette distinction entre les différentes
Parce que l'impureté, c'est simplement est-ce qu'il y a des animaux. Pureté et impureté dans les animaux, ça veut dire est-ce qu'on peut les manger ou pas. Un animal n'est jamais, le vivant n'est jamais impur. Le seul être vivant qui peut être impur, c'est l'homme. D'accord? Mais bon, alors après, des charognes, des carcasses, etc., ça peut devenir impur. Mais alors pourquoi il a Hachem, il a. Visiblement, on a besoin de cette diversité. Je ne peux pas dire pourquoi. C'est-à-dire, il n'y a pas que. Ça a une. Comment on veut dire ça? Le monde animal, il a une raison d'être autre que simplement d'être de la nourriture pour les hommes. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'animaux qui ne soient pas mangeables. Le fait de pouvoir tuer les animaux pour les manger, c'est une concession qui est faite à Adam, justement, quand il sort de l'arche. À Noah, pardon. Adam, il n'avait pas le droit de tuer les animaux pour les manger. Il pouvait manger les animaux qui étaient morts de mort naturelle, ou qui avaient été tués par un autre animal, éventuellement, mais il ne pouvait pas tuer pour manger. Et du coup, c'est comme ça qu'on explique, on dit que Adam Harishon, il a reçu 6 mitzvot. Et la 7e mitzvah, on parle toujours des 7 mitzvot des Bnei Noach, les 7 mitzvot des Bnei Noach, il y en a une 7e qui est donnée à Noach quand on lui donne la permission de tuer pour manger. Mais on lui dit, tu dois vraiment, si tu veux manger, il faut vraiment tuer l'animal. Si tu veux manger, tu peux pas arracher un membre à un cuisseau de chevreuil pour aller se le rôtir, là. Tu peux pas. Pas le droit. Ça s'appelle Eiver min ha-chay. C'est l'interdit alimentaire chez des non-juifs, quoi. Parce que, comme tout le monde est descendant de Noach, quand on parle des lois noachides, en vérité, c'est les lois qui s'imposent au monde entier. On l'aura jamais, il n'y a pas eu de Kabbalat à Torah, de Kabbalat à Sheva Mitzvot, on ne leur a pas demandé leur avis. C'est la loi du monde. De la même manière que On doit respirer, qu'on doit manger, etc. Bon, il y a, voilà, il y a des lois. Et il y a donc ces fameuses sept lois qui sont complètes que quand on a la septième donnée à Noach, c'est pour ça qu'elle s'appelle Noachid. Les gens s'appellent Bnei Noach. Mais en fait, la quasi-totalité des mitzvot ont déjà été données à Adam. Alors, en fait, c'est Hachem qui va fermer l'arche, fermer la porte de l'arche. Parce que fermer la porte de l'arche, ça voulait dire que plus personne ne pouvait entrer. Et ça, on ne peut pas demander ça à Noach. Noach, il ne peut pas exclure les gens. À la limite, s'ils avaient fait tchouva à la dernière minute, ils auraient, du point de vue de Noach, ils ne pouvaient pas se permettre de les refuser. Mais Hachem a décidé que, voilà, c'est terminé. Je détruis, il n'y a plus de possibilité. C'est comme si on était arrivé à un moment, c'est le Shem Lishmuel, je crois qu'il dit que on est arrivé à un moment où il n'y a plus d'espoir de tchouva. Hachem n'espère plus, si on peut parler comme ça, que l'humanité fasse tchouva. Quand Pardon, qu'est-ce que tu dis? Si vous voulez, dans la Torah, il n'y a pas de garantie qu'on fera tchouva. C'est les Lévim qui ont dit que le monde aura, il y aura 6000 ans ou de quelque façon. Mais c'est pas écrit dans la Torah. C'est les drachot ou. Dit que c'est les Nevi'im qui ont dit ça. Donc on n'a pas de garantie, Mina Torah, qu'on fera tchouva. On pourrait imaginer une humanité qui ne fasse jamais tchouva. Ça ne changerait rien, on aurait toujours les mêmes obligations. C'est la loi du monde dans lequel nous sommes. Quand j'ai dit, je veux être dans mon monde, c'est voilà la loi. Mais bon, mais on a une promesse qu'on va faire tchouva. Mais elle n'est pas écrite dans la Torah.
Bon,
Non, mais justement, quand on dit qu'il n'y aura pas de garantie qu'on fera tchouva, c'est-à-dire que Hachem ne se révélera pas, il va pas faire irruption dans la vie. Il est accessible, si tu veux, tu peux le rencontrer, mais si tu fais pas d'effort, tu veux pas le rencontrer, mais tant pis pour toi. Comme c'est possible aujourd'hui. Une fausse tchouva, quoi. Une tchouva comme celle que nous on fait à Yom Kippour. Ouais. Non, ça, c'est pas possible. Ça s'appellera tchouva quand ça sera à ce moment-là, parce que les hommes se sont. C'est comme ça. Les hommes doivent se conduire d'une certaine manière pour qu'Hachem se révèle. Et quand une fois qu'il s'est révélé, il n'y a plus moyen de faire marche arrière.
Mais les psukim, les derniers prakim des Dvarim, c'est pas une garantie. Veshavta lo
Oui,
Non, c'est.
c'est pas une promesse de
non, c'est on dit voilà, il se passe comme ça, Veshavta. Et si tu fais effectivement Tshuva, normalement ça devrait t'amener à faire Tshuva. Mais bon, on pourrait imaginer si on n'avait pas la garantie qu'on fera Tshuva, de la Torah, il n'y a pas de garantie, c'est des drachot. qui garantissent qu'on fera tchouva. C'est une question très connue, enfin. Le Rambam, il a mis dans les Shlosh Esrei Ikarim, il a mis qu'il y a un Ikar, qu'il y aura Mashiach. Et le Khatam Sofer, il dit qu'il ne comprend pas pourquoi c'est un Ikar. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'un Ikar, un fondement? C'est quelque chose qui, si tu le retires, tout l'édifice s'effondre. Alors, le Khatam Sofer, il écrit, donc on pourrait très bien imaginer, si on n'avait pas les promesses, qu'on ne fasse jamais de Tshuva, mais ça ne mettrait pas du tout en cause notre obligation de respecter la Torah. Donc, il n'y a pas de raison de penser que c'est un Icar. Parce que même si on l'enlevait, on continuerait d'avoir l'obligation. Même si on n'avait pas ces promesses, bah, Hachem a créé le monde et il nous a amené à accepter la Torah. Point barre. Pas marqué, vous acceptez la Torah parce que je vous garantis que le monde, que je me révélerai et que il y aura, vous allez faire tchouva. Il n'y a pas cette
Et
garantie.
nous, on est tellement habitués, on a été éduqués pendant des milliers d'années, non, sur cette idée que c'est difficile de dire elle n'est pas dans la Torah, parce que séparer Chazal de la Torah, c'est artificiel.
Non, mais je ne suis pas du tout en train de les séparer. Mais je dis que, comme dit le Khatam Sofer, si on n'avait pas cette promesse, on pourrait très bien. Bon, cette promesse, elle est. Vous savez, quand cette histoire de 6000 ans, etc., c'est une opinion dans la Gemara. Mais tous les kabbalistes, je pense, ils pensent comme ça, qu'il y a des cycles de 6000. En fait, le cycle est un cycle de 10 000, mais. Il y a 6000, puis ensuite tout un millénaire de Shabbat, et ensuite il y a une espèce de réorganisation, et au bout de 10 000, on recommence. Et le Gaon et d'autres ont enseigné, vous avez déjà dit qu'on est maintenant dans un deuxième cycle, en fait. Dans un deuxième cycle de ces 10 000-là. Oui, alors maintenant la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on passerait d'un à un deuxième cycle, en fait? Ou un troisième, enfin un nouveau cycle. Je crois, j'avais vu ça la première fois que j'avais enseigné Sanhedrin, mais je ne l'ai pas retrouvé explicitement dit, que quand on passe d'un cycle à l'autre, alors ce qui était le spirituel du cycle numéro 1 devient le matériel du cycle numéro 2 et on doit inventer le spirituel du deuxième cycle. Et comme ça, on progresse. Le seul exemple que je donne et qui est pas tout à fait comme ça, c'est Hazal disent que celui qui fait blêmir son prochain en public, comme s'il l'avait tué. Alors on peut imaginer, Lo tirtzach, tu ne tueras pas, comme étant, tu n'as pas le droit de tuer avec un couteau, quelque part. Mais spirituellement, tu n'as pas le droit de tuer avec des paroles blessantes, etc. Et puis on peut imaginer un cycle où la base, c'est évident, on a déjà réglé le problème de tuer avec un couteau ou un pistolet, d'accord? Et on a intégré qu'a priori, il faut pas faire blêmir quelqu'un. Et alors il faut se demander quel serait un sens plus éthéré, on peut parler comme ça. De tu ne tueras pas dans le cycle suivant. Je ne sais pas, mais disons, on a cette idée que considérer que faire blêmir, parce qu'effectivement, blêmir, ça veut dire le sang s'en va, donc c'est comme si on avait versé le sang de la personne. Qu'est-ce qu'il y aurait de... Peut-être qu'on peut pas le penser aujourd'hui parce qu'on n'est pas dans le bon cycle, mais je sais pas.
C'est ça, c'est se transformer pour atteindre soit un niveau de compréhension, pour en décoder l'autre
Bon,
sens.
c'est la même chose en compréhension. En compréhension, on a... voilà, il y a des gens, on comprend les choses à un certain niveau, puis après, tout à coup, éventuellement, il y a un déclic, et je comprends autrement, et je me demande comment je pouvais pas, comme, quand j'ai vécu jusqu'à maintenant, pourquoi j'ai pas compris. C'est comme ça. Il faut, ou des expériences, ou, voilà. Oui, le Khatam Sofer, il dit, les kabbalistes, ils disent des choses, ça, mais moi, j'y connais rien, du coup, c'est un mensonge. Son maître, c'était Rav Nachman Adler, qui était un très, très grand kabbaliste, et le Khatam Sofer, il connaissait la Kabbale aussi, mais bon, il voulait pas dire. Oui, d'une certaine manière, si vous voulez faire les mitzvot pour avoir Olam Haba, c'est pas l'ishma. C'est pas le faire de façon désintéressée. Alors, je l'ai fait pour des raisons très, très élevées. Je l'ai fait par amour pour Hachem. Très bien. Mais, voilà, c'est dans l'amour pour, peut-être là aussi, il y a des degrés d'amour pour, je veux dire,
Désintéressé l'amour pour Hachem.
bon, ça, je vous laisse, décider toute seule. Alors, il y a un paradoxe dans le fait que le passage dit que c'est Hachem qui ferme la porte de l'arche. Donc, Hachem, c'est le Rachamim. C'est la tendresse. Et après, ça continue. Après, c'est marqué quand le Passouk nous dit à la fin de la fin du Maboul. Alors, c'est marqué que Vaïskor Elohim est Noach. C'est Elohim qui se souvient de Noach. C'est-à-dire l'Amida de rigueur qui se souvient de Noach. Nous, on aurait dit le contraire, quoi. Celui qui ferme la porte, c'est Elohim. Et celui qui ouvre, qui décide d'ouvrir, c'est Hachem, c'est exactement le contraire. Alors, comment c'est possible de, que ce soit à ce point-là le contraire? Rashi dit que les Rechaïm, pas, les mauvais, par leurs actions, ils peuvent transformer la anaga, c'est-à-dire la façon de gouverner, bah, qu'on décrit en utilisant le nom divin Hachem, c'est-à-dire une façon de, pleine de tendresse, etc., et transformer cette mida en mida de d'Elohim, c'est-à-dire mida Tarachamim. Et à l'inverse, par la prière, on peut transformer la mida Elohim dans la en Hachem, en mida Tarachamim. Seulement là, la question qui se pose, c'est pourquoi la prière, si on dit comme ça, il faut dire que Noah a prié, quoi. Parce qu'il n'y a que lui qui pouvait prier, il n'y avait plus personne. Pourquoi il n'a pas prié avant? Ou s'il a prié avant, pourquoi la prière n'a pas été entendue?
Vous croyez pas ça?
Peut-être c'était pas suffisant. Peut-être c'est inclus dans ce qu'on a dit qu'il était Ma'amin ve'eno Ma'amin b'Tanaimana.
S'il avait rempli tellement de gens dans cette malheureuse guerre, j'en ai jamais pris le plus, ils prétendaient ne pas croire en chaîne. Ils ont tous, il y a plein de témoignages de gens qui Ils ont vu que c'était la dernière, croyaient que c'était la dernière minute qui était arrivée, ils sont tous tombés dans les sept. Ils ont tous parlé à ça.
Donc Noir sort de la Teva et il va construire un Mizbéar. Il construit un Mizbéar et il apporte un corban, alors comme je vous l'ai dit, c'est. Il va demander à des fils d'amener le corban parce que lui, il pourra pas. Et à la fin de cet épisode, justement, du Maboul, dans le passouk Chet, il est dit que Vayomer Hashem, dans le verset Kaf Alef du chapitre 21 du chapitre 8, Vayomer Hashem el Libo, lo osif le kalel od et ha'adama ba'avur ha'adam. Je ne frapperai plus, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Ki yetzer lev ha'adam ra minehurav. Parce que le Yetzer hara chez l'homme, il est là depuis tout le temps. Velo sif od le hakot et kol chay kasher asuti. Je ne frapperai pas tout le vivant comme je l'ai fait jusqu'à présent. Etc. Et vaivarech Elohim et Noach et banav. Et Elohim a béni Noach et ses fils. Et il leur a dit, pour vous, Milouetaharetz. Il leur a dit, multipliez-vous, enfin, fructifiez, multipliez-vous, ayez des enfants et remplissez la terre. Le Ramban dit que quand le Passouk nous a dit que Vayomer Hashem el Libo, littéralement Hashem, si on traduisait, ça donnerait Hashem a dit à son cœur. Alors le Ramban explique que ça veut dire que c'est une décision qu'Hashem a prise et qu'il n'a pas dévoilée à qui que ce soit. À qui est-ce qu'il aurait bien pu la dévoiler? Il n'y avait qu'un seul prophète à ce moment-là, c'était Noach. Donc il n'a pas dit à Noach qu'il avait agréé le Corban. Le Ramban dit que quand Hachem a ordonné à Moshe Rabbeinu d'écrire la Torah, il lui a dicté la Torah, il lui a dit, il lui a révélé que le Corban de Noach avait été agréé. Et que par conséquent, il n'en verra plus de déluge. Donc, cette histoire d'agrément, c'est une chose importante. Nous aussi, on met dans la tfila, dans la Hamida, on fait toute la Hamida, toutes les demandes, et après, on dit Retsé, on demande à Hachem d'agréer la prière. Bon, parce que c'est pas parce qu'on prie que c'est obligatoirement. Agréé. On raconte que quelqu'un est venu un jour après la guerre chez Rabbi Aaron Kotler. Il lui a dit, je prie, mais Hachem ne répond pas. Je prie, mais Hachem aime faire pnicht. Le bon, il ne répond pas. Alors, ben, quand là, il lui a dit, mais tu lis pas vraiment. Hachem ne répond, Hachem répond nicht, non. T'as répondu, c'est non. Seulement toi, tu veux pas l'entendre. Il y a des fois où on demande des choses et Hachem répond non. C'est pas qu'il répond pas. Il répond non.
On n'est jamais bien sûr de devoir parfaitement demander.
Ouais, on n'est pas sûr que la prière ait été agréée. On demande l'agrément et à la limite, je dirais, on ne sait pas si c'est agréé ou pas.
C'est aussi la chemin, en fait, avec des histoires pour, par exemple, dans des situations,
Bon, ça, il y a deux sortes de prières. Ouais. Il y a la prière en situation de crise. En Kol Tzara et l'Otavo, il y a une mitzvah de prier. En ce moment, il y a une mitzvah de prier particulièrement. Et puis, il y a la prière que nous faisons 3 fois par jour, qui est une prière nécessaire pour le fonctionnement du monde, etc. Mais ce n'est pas exactement le même type de prière. Et c'est ça, dans la prière où on demande à Hachem de nous sauver ou de faire telle et telle chose, ben des fois c'est pas agréé, quoi. C'est pas parce que ça entre pas dans le projet divin, quoi, quelque part. Pardon, on prie.
On accompagne la volonté d'Hachem quelle qu'elle soit.
On a.
On accompagne la volonté d'Hachem quelle qu'elle soit quand on prie dans ce moment-là.
Non, parce que Hachem, quand il nous a donné la possibilité de prier, il nous a donné la possibilité d'essayer de l'influencer. Quand Abraham Avinu, il prie, et quand il discute, c'est une prière. Il discute, s'il y a 45 justes, est-ce que tu vas aussi tous les tuer, ben, en même temps que tu vas tuer les Rechaïm, mais c'est un scandale. On n'a pas le droit de tuer les innocents en même temps que les autres.
Est-ce qu'il avait décidé, si on part du principe qu'Hachem nous aime, et peut-être qu'Hachem veut nous faire passer par cette preuve-là pour mieux arriver là, parce que la
Peut-être que l'épreuve, c'est pour que tu pries.
voilà, ah, que
Que tu prennes conscience que tu dépends d'Hachem et que tu pries.
et comment est-ce qu'on parle, par exemple, de la phrase que vous venez de dire? C'est un scandale, par exemple, de voir avec les gens en même temps, et le moment où la prière n'est pas agréée. Comment est-ce que ça reste? Peut-être de te faire part,
Ouais, nous on comprend pas. D'accord? La première chose, c'est qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que nous, on n'a pas le droit, si vous voulez, de donner un sens aux choses voilà, nous arrivent. On va obligatoirement donner un sens, justement, à ce qui se passe maintenant, du sens à ce qui s'est passé pendant la guerre, etc. On n'a pas les éléments. On a une toute petite fenêtre sur une toute petite partie de ce qui se passe. Et on ne peut pas juger en ne connaissant que ce qu'on voit dans cette petite fenêtre. On ne connaît pas l'histoire avant.
et on a peur, moi, que ce soit une punition.
Mais si je pense, à titre personnel, pour ce qui me concerne, ça me remet en cause. Peut-être que justement le fait que nous ne comprenions rien, c'est justement fait pour que on envisage toutes les situations, qu'on fasse un nettoyage complet. Parce que si on savait, alors bon, on nettoie seulement là où c'est sale, quoi. Et comme on ne sait pas, on sait, on est obligé de passer en revue toutes les situations pour regarder.
Pourquoi Hachem
Quand tu sais que ton corban a été agréé, c'était bien. Tu risques d'en rester là. Si tu te demandes est-ce que ça a été agréé, tu sais pas ce qui se passe. C'est qu'avait la Hachem, c'est-à-dire espère que ta prière a été agréée. Et si tu vois pas clairement qu'elle a été agréée, qu'avait la Hachem. Repris. Et si ça va pas, repris. Alors, Noir va faire quelque chose d'étrange. Bon, il sort d'une expérience tout à fait extraordinaire. Et voilà, et il va planter de la vigne. Alors, si vous prenez le texte, c'est la sixième montée, c'est le passouk Yutret du Perektet. 9, 10, 9, 18. Donc voilà les bnei Noar qui sont sortis de la Teva. Shem, Cham et Yafet. Cham, on nous dit, et Cham est en plus, on nous dit, il est le père de Cnaan. C'est important parce que Cnaan va jouer un rôle important. Le pays Eretz Israël, pardon, est appelé dans la Torah Eretz Canaan, le pays de Canaan. Donc là, donc c'est à partir d'eux que cela, donc toute la terre s'est étendue, elle s'est remplie aussi. Et alors là, maintenant, on dit, Vayachel Noach Ish Ha'adama Vaita Karen. Alors, par exemple, ici, ils ont traduit Noah, homme de la terre, donc Ish Ha'adama. Ils ont traduit Vayachel par se rabaissa et il planta un vignoble. Alors, ils disent que leur traduction, elle correspond à Rashi. Rashi dit pas exactement comme ça. Rashi dit, Vayachel, Asa Atzmo Chulin. C'est-à-dire, il a fait de lui quelque chose de profane. Chulin, c'est le contraire de Kadosh. Donc il s'est profané, il était à un certain niveau, et maintenant il devient Isha Adama. Comme si Isha Adama, c'est une drôle d'expression parce que c'est comme si on disait qu'il était l'époux de la terre, le mari de la terre. Isha Adama, Ish Naomi. Alors Vayachel. Vayachel, c'est vraiment profané. Donc c'est une profanation, et la profanation, elle est là déjà parce qu'il a planté de la vigne. Et pourquoi est-ce que c'est profané? S'il y avait des plants de vigne, il ne les a pas trouvés ici, il avait des plants de vigne dans l'arche. Donc ces plants de vigne, ils leur ont été donnés pas pour qu'ils les regardent. Qu'il fallait les développer en bonsaï. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Il fallait les planter. Alors il les a plantés. Pourquoi de planter des arbres, planter une vigne, un vignoble, comme ils disent? Pourquoi planter une vigne, c'est se profaner? En quoi est-ce une profanation? Alors Rachid donne un élément de réflexion. Rachid dit, Shayalo la sok trila bintia acheret. Il n'aurait pas dû commencer par le vin. Est-ce qu'il aurait dû planter d'abord du blé? OK. Donc, ça veut dire qu'on a compris qu'il a planté le vin en premier, la vigne en premier. Mais s'il a planté d'abord du blé et que c'était ça qu'il fallait faire, alors on pourrait très bien imaginer que la Torah n'en parle pas. Alors, évidemment qu'il a planté du blé, mais ce qu'on mentionne ici, c'est qu'il a planté de la vigne, et puis il va y avoir des conséquences au fait qu'il a planté de la vigne. Mais personne, on n'est pas obligé, d'après le texte, on n'est pas du tout obligé de penser que c'est la première chose qu'il a plantée. S'il faut planter du blé normalement, la Torah, elle ne nous raconte pas tous les détails. On ne dit pas qu'il a mis un pied devant l'autre pour sortir de l'arche, je veux dire. Mais en tout cas, tout le monde a compris ici que y a quelque chose. Le passouk nous dit, Vayachel, il s'est profané. Mais qu'est-ce qu'il y a de profanant, si vous voulez, à planter produire du vin, donc? Pour nous, la vigne, c'est produire du vin. Le vin, il a deux fonctions dans la Torah, si on peut parler comme ça. On donne du vin aux endeuillés. Quand quelqu'un revient de l'enterrement, pour l'aider à surmonter un peu la dépression, la situation. Si, bonjour.
C'est terminé.
Ouais, c'est pas pendant, c'est quand ils reviennent. On donnait du vin. Mais on donne encore aujourd'hui, je crois. Ouais. Ouais. Je sais pas, on n'était pas obligé. Mais bon, a priori, en tout cas, c'est comme ça que le vin, il sert à ça et il sert aussi à réjouir le cœur. C'est une grande discussion dans la Gemara, quel est l'usage fondamental. Est-ce que c'est nous aider à passer des épreuves difficiles, d'un moment de dépression? Artificiellement, ça va permettre de passer par-dessus. Et aussi, c'est quelque chose qui réjouit le cœur, comme on dit. Le vin réjouit. Et donc, on a besoin de simcha, ça aide. Donc, c'est intéressant, c'est une espèce de. Ça peut être un euphorisant, quelque chose comme ça. En quoi fabriquer du vin, qui a ces deux fonctions-là, en quoi est-ce que c'est se profaner? C'est un peu difficile de comprendre en quoi c'est se profaner, non? C'est un mot, c'est un très fort, profaner. C'est beaucoup plus que s'abaisser. Profaner, devenir pouline, c'est grave. Devenir chouline, ça veut dire que jusque-là, il avait un certain degré de kdoucha et qu'il a perdu ce degré de kdoucha.
C'est pas une réduction de la conscience,
Pardon, c'est?
c'est pas comme une sorte de réduction de la conscience pour libérer une notion de droit. Parce que comme si on était à la conscience.
Ah.
Parce que si j'en suis capable, je me suis dit que c'est pas seulement
Pardon, si son plat, c'est que vous voulez, c'est. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit.
c'est un type de sanction qui s'appelle quelque chose sur le bilan.
Oui, enfin, c'est le clan qui a dit à ouais, son fils.
Ça veut dire que
Oui.
c'est pour affecter dans un état plus que.
Non, mais il s'est enivré.
Oui.
Mais alors, qu'on dise qu'il s'est enivré, qu'on dise qu'il s'est enivré, à ce moment-là, on dit qu'il se profane, oui, mais c'est pas marqué comme ça. C'est écrit que Vayachel, parce qu'il a planté.
Parce qu'il a planté avant de le dire.
Disons après. Ok, peu importe, mais c'est le fait d'avoir planté du vin. Mais il n'y a pas de mal. Bon, nous, on fait qu'il douche sur du vin avant avant de faire sur le pain. Alors, on couvre le pain parce qu'il a priorité. Mais on.
Il n'y a pas de message c'est pas justement un début, mais de mettre en place un système de nourriture par le vin, alors que le vin n'est pas là, c'est pas
La
une
personne, encore une fois, je dis, c'est, on pourrait presque dire qu'on lui fait un procès d'intention à Noah, parce que personne ne dit qu'il n'a pas planté le blé avant. C'est pas parce que la Torah ne parle que de ça, elle ne parle pas de tout le reste.
Est-ce que c'est pas la Torah qui le signale pour ces gens?
Elle nous le raconte parce qu'il y a une suite de
Il y a une
ce,
suite, voilà.
et donc c'est,
Malgré que Noah a planté de la vigne parce qu'il était extrêmement triste, il était tout seul. On a demandé à un moment donné, ça vous vient donc qu'il a été tout par rapport à ce qu'il était dans un état de. Majeur du cachet avant de la porte de l'arche. Il n'était pas tellement seul.
Parler à Abraham aussi. Oui, face à face, c'est sûr. Le Rav Volbe, il écrit là-dessus, il dit, En lanu kol siyur begadlutam shel rishonim. On n'a absolument aucune idée de la grandeur des précédentes générations. En particulier chez Noach, dont Hachem a dit qu'il était Otra Raiti Tzadik. Toi, je t'ai vu, je t'ai observé, je te connais, tu es un Tzadik. Donc c'est sûr que quand Noach a planté ce vin, il a planté pour avoir du vin, pour faire des libations dans son corban. Il a amené un corban et on amène un corban. Et dans un corban, on amène toujours des libations parce qu'il y a aussi il y a du solide et du liquide, etc. Du minéral et du végétal, etc. Mais puisque le vin, il sert aussi à être bu par les hommes, alors Noach, il aurait dû réfléchir, il aurait dû s'occuper d'abord de planter autre chose, par exemple les céréales, les. Donc il se trouve que quelque part, il n'a pas fait les choses dans l'ordre. Il aurait dû faire les choses, il manque ici d'avoir fait les choses dans l'ordre. Pas plus que ça. Et alors il dit, avec cette petite erreur en quelque sorte, de ne pas faire les choses dans l'ordre, même quelqu'un qui a un avis, qui est un prophète, il peut dégringoler, il était kadosh et il dégringole, il est profane, il est khoulim. Quelqu'un qui se construit une maison, et avant d'entrer dans la maison, les tables, les chaises, etc., il achète d'abord un canapé. Ça montre que ce bonhomme-là, il est chouline. Alors c'est un grand chidouche qu'il y a ici, c'est que finalement Noar, c'est un bonhomme, il a 600 ans, il est prophète, il a vécu à un niveau spirituel absolument extraordinaire dans la Teva, où il s'est complètement sacrifié pour donner à manger aux autres, etc. Il fait quelque chose qui n'est pas exactement ce qu'il faut faire. Ça le profane. Alors il dit, c'est une règle générale que quand on a quand on a fait une expérience qui vous a élevé, par exemple, comment on se trouve après Yom Kippour, Motsé Yom Kippour, à ce moment-là, il y a eu tous les Yamim Noraïm, Rosh Hashanah, Seretim Teshuvah, Kippour. S'il fait quelque chose qui convient pas, immédiatement il se profane. Et c'est pour ça que Chazal ont fixé que immédiatement après Kippour, on construit la Soukha. Fais tout de suite quelque chose de, voilà, c'est, tu fais une mitzvah. Parce que comme ça, il prolonge son état de kdusha. Il se profane pas. Et c'est pas seulement après Kippour. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, bah, Asher Kideshanu be mitzvotav, Hachem nous a sanctifiés par les mitzvot. Par exemple, après la prière, après la tfila, ou après Shabbat. Faut faire attention dans la chose qu'on fait juste après. Parce qu'on est à un certain degré de kdusha, il faut pas dégringoler. Faut pas se profaner. Alors, voilà, bon, il a planté, là, il a planté une vigne. Vayesh tminayayin vayishkar. Vaygal betoch aolo. Alors, Chazal disent, il y a eu un S. Il a planté ça, le même jour, ça a poussé, ça a donné du raisin, il a pressé le raisin, ça a donné du vin, tout ça, le même jour. Donc c'est bon. Et il s'est enivré. Il a bu ce vin de ce vin et il s'est enivré. Oui, ça veut dire Hachem, là. Normalement, il aurait dû comprendre que il est dans un processus d'élévation, quoi, quelque part. Il aurait dû amener ce vin-là comme libation avec son corban. Non, il l'a bu. Alors, on a le droit de boire du vin. Pourquoi est-ce qu'il s'est enivré? On a l'impression. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est enivré? Il savait pas qu'il allait, que la quantité de vin qu'il a bu allait l'enivrer, ou bien il savait et il s'est enivré volontairement.
Après les perturbations, entre guillemets, l'année très dure qu'il a eue dans sa vie, il y a eu un lâcher prise.
Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas eu de contrôle, comme elle a dit Charlie, il n'y a pas eu un contrôle sur lui, il a lâché.
C'est possible. Ou bien il a pensé que il a senti que il n'était plus au même niveau, et il a pensé que peut-être de boire du vin, peut-être même de s'enivrer un peu, ça allait le faire remonter. Il va de nouveau se détacher des conditions matérielles. Ça va peut-être l'aider.
Quelqu'un qui a pas mal caché et qui a vu tout ça, après, personnellement, ça me semble un peu.
C'est pas, il y a, les deux possibilités existent. Bon, on peut choisir, hein. C'est...
Un, c'est très haut, il va choisir des solutions supérieures à
Non, il est... Non, c'est pas crête. On peut très bien se dire, mais j'ai pas d'autre moyen maintenant de retrouver l'état dans lequel j'étais dans la... quand j'étais dans un état, c'était spirituel, mais il y a des gens qui pensent que bon, alors que ça soit l'alcool ou certaines drogues, etc., ça permet d'accéder à des autres
Et
mondes.
ça, tous ceux qui sont ici, tous ceux qui font ça, savent que c'est pour faire comme si que, c'est-à-dire, ils se voient un truc, je vais avoir l'impression, mais ils savent qu'ils vont redescendre.
Non, non, mais alors, bah, c'est autre chose. Mais en attendant, ils sont montés. Vous dites, ils savent, ils vont descendre. Oui,
Ils
d'accord.
sont montés dans l'illusion parce qu'ils n'ont pas la conscience, ils
Mais
n'ont pas.
pourquoi? Mais justement, peut-être que c'est pas vrai, c'est pas tout à fait comme ça. Ça ouvre certaines, ça ouvre, ça donne accès à. Je suis pas un spécialiste.
Sais pas, mais le fait que dans les textes, est-ce que cette phrase, quand le vin rentre, le secret sort, est-ce que c'est une phrase qui vous rend négative ou positive?
Les deux.
C'est vrai qu'à présent, j'ai toujours pris ça de négatif.
Mais la plupart du temps, on le prend négativement, mais peut-être que l'alcool peut donner quelque chose, une certaine ouverture.
Ça pouvait accéder à des zones qui étaient fermées jusque-là. Peut-être les artistes, les poètes, en littérature, ouais, ils prennent des drogues pour accéder à.
Ok, mais c'est ce qu'il a peut-être voulu faire. Mais peut-être que d'en passer par ce chemin-là, là-dessus, j'aurais dit que c'est ça, c'est se profaner. Mais la Torah, elle est beaucoup plus sévère que ce que je dis là. Parce que la Torah, elle dit de planter, c'est déjà, parce que c'est pas dans le bon ordre, c'est déjà, c'est raté, quoi.
Oui, ça montre une précipitation plantée avant et ça veut dire déjà obéir à un ordre, c'est très difficile d'obéir à un ordre. Donc là, il y a des trucs qui étaient arrivés et il prend son ordre à lui. Et ça peut aussi montrer qu'il était pressé. Donc ça veut dire, ça pourrait laisser supposer qu'il y avait quelque chose en lui qui voulait
Mais
un.
c'est peut-être c'était une espèce d'urgence de retrouver ce qui semblait ne plus avoir. Pardon? Pas du tout,
Non,
oui, mais Hachem lui a donné l'ordre de planter en lui disant, tu vas mettre dans l'arche tous ces végétaux. Ils sont pas là pour qu'ils les regardent. C'était bien pour les replanter ou les... En soi, c'est intéressant de voir que Hachem va créer un nouveau monde, mais le monde végétal et le monde animal restent le même. Alors, quelque part, il reprend les mêmes et on recommence. Et les humains, bon, c'est aussi des humains. Mais au lieu de simplement un homme, une femme, il y a aussi déjà des enfants. D'accord, on part avec une situation où les enfants eux-mêmes ont déjà des enfants, ont déjà des sont déjà mariés, ils vont pouvoir avoir des enfants.
Mais Rav, le fait que Noah est passé, enfin, plutôt que Akadosh Baroukh Hou est passé une alliance avec Noah,
Oui.
fait que quelque part, il qualifie Noah, je dirais, pas forcément comme un homme, mais enfin, il élève l'homme un peu comme il fait avec. Avec les Avot et surtout avec Moshe Rabbeinu plus tard. Et du coup, on voit avec Moshe Rabbeinu il se doit d'avoir un comportement qui n'est pas tout à fait un comportement humain, puisqu'il se sépare de sa femme, puisqu'il a une vie complètement, on va dire, entre deux niveaux, enfin, si on peut dire les choses comme ça. Alors, il aurait fallu peut-être que Noah comprenne ce statut, mais c'est très difficile quand on ne le sait pas. Et lui, il a peut-être voulu apporter sa touche humaine, et c'est peut-être ça qui l'a fait dégringoler, mais il a peut-être voulu créer une alliance avec Noah qui finalement n'était pas encore prête à être réalisée parce qu'il fallait passer par d'autres étapes. Et à ce moment-là, Noah n'est pas responsable de ça.
L'alliance, c'est vraiment une alliance, bon, toute la notion d'alliance d'Hachem avec avec qui que ce soit, c'est tout à fait paradoxal. Je veux dire, faut d'abord faire de nous des partenaires acceptables pour une alliance, et après on fait l'alliance. Donc c'est un peu spécial cette alliance ici. Je crois elle va être renouvelée avec l'arc-en-ciel là, le problème de l'alliance, mais enfin, espèce de garantie que il y aura plus de maboule, mais un avertissement que si j'avais pas décidé de ne pas faire de maboule, vous mériteriez un maboule de nouveau. C'est ça que l'arc-en-ciel complet là est censé nous dire. Bon, alors, pour revenir à notre affaire là, cette histoire du vin, c'est pas vraiment bon, visiblement Rashi et probablement d'autres mefarshim ont lu que voilà, c'était pas la, que la profanation, elle vient non pas d'avoir bu du vin, ça c'est déjà la suite de la profanation, hein. Mais la profanation, elle vient de ne pas avoir respecté un ordre, une espèce d'ordre naturel, qui est de planter d'abord du blé et après seulement du vin. C'est ça la profanation. Tu ne respectes pas un ordre qui est dans le monde, en fait.
C'est un ordre qui est de l'ordre du vin, c'est ce sévère à deux ordres plantés, ça vient d'Hachem, l'exemple vient d'Hachem, c'est l'ordre qui l'a créé. Parce que si c'est ça vient d'Hachem, il aurait désobéi déjà à l'ordre établi par Hachem.
Et c'est ça qu'on parle,
C'est ça,
c'est
alors.
ça qu'on dit. C'est-à-dire que c'est ça qu'ils ont compris, c'est ce que vous dit Rachid.
Et quand je commence à parler des enfants, je pense qu'ils ont compris.
Non, alors je pense que c'est comme si Hachem avait voulu garantir que le commencement de la transmission va bien se faire. Alors que les enfants, ils font aussi l'expérience de, etc. Alors que les enfants d'Adam et Eva, eux, ils sont, en tout cas, si on tient pas que, il y a une discussion pour savoir quand ils sont nés. Est-ce qu'ils sont nés avant la faute ou après la faute? Alors, si on considère qu'ils sont nés avant la faute, alors Hachem avait voulu aussi qu'il y ait déjà des enfants, mais ils sont pas mariés. Et là, on prend les enfants qui sont mariés, c'est-à-dire on est en train de travailler la troisième génération. Peut-être que c'est ça, pour ça qu'Hachem a, dans la deuxième, la nouvelle création du monde, en fait, si on peut parler comme ça, Hachem a pris des précautions pour avoir mis en marche la transmission, déjà. À un niveau plus élevé. Pas attendre que ce soit seulement, il y a seulement le départ, et puis après, il faudra inventer la transmission. Peut-être qu'il faut marcher, mettre en marche la transmission.
Grave, s'il vous plaît. Oui. Oui, c'est vous qui aviez parlé de la comparaison avec Rabbi Shimon Baruch Hay qui était dans la
La
grotte
grotte.
quand il est sorti et que il était dans sa bulle, il n'était pas adapté
Il a mis le feu partout. Oui.
au monde. Donc, là aussi, Noir, il est dans sa teva, il est dans sa bulle, il sort de il arrive sur la terre et il pense à honorer. Il est très élevé, justement, il est comme un chassid, il veut honorer Hachem avec le vin. S'il a pas pensé au pain, c'est parce que il est justement dans sa bulle qu'il a pas dans, sur son bateau, il a pas eu besoin de pain, et
La
que
vérité, c'est ça marche pas non plus, parce que si c'est pour avoir un corban complet, dans un corban complet, il y a des libations, mais il y a aussi des menachot. Et des menachot, c'est des gâteaux, c'est des crêpes. Il y en a des tunisiennes et des autres, c'est-à-dire plus ou moins d'huile. Mais
Alors,
pardon?
il aurait dû parler de deux, mais peut-être on met en valeur le vin. Il a sûrement fait pour le blé. On met en valeur le vin parce qu'il était plus raffiné que penser au matériel, le pain qui est la source même pour se nourrir.
Le vin, d'après Chazal, le vin nourrit et réjouit. Il nourrit aussi. Le
Le
vin,
vin
il est aussi son aide, comme on dit.
a une valeur peut-être plus spirituelle que le pain. Le pain est
Bon.
plus matériel.
Je sais pas, si on regarde les menachot, c'est au moins autant kadosh que les libations. Si on veut
Bon, quand on
regarder
prend les
le
racines,
vin
quand
comme
les femmes,
corban,
les racines.
alors le blé aussi, c'est les corbanotes.
Moi, je voyais par exemple les chassidiques, ils mettent beaucoup le vin en valeur, ils font des Farbregen, il y a vraiment une élévation à partir du vin.
Premièrement, beaucoup de chassidim, c'est pas du vin qu'ils prennent, mais de la vodka.
Je ne pas
D'accord?
avoir de vin en Pologne.
Ouais, c'était difficile. Le vin en Pologne, il était fait avec des raisins secs qu'on faisait tremper et cuire dans de l'eau, quoi. C'est comme ça qu'on faisait du vin. Bon, alors, OK. Donc, vous amenez la prochaine bouteille? D'accord.
C'est pour devenir plus spirituel.
Ah oui, bien sûr, c'est très spirituel après. Oui, maintenant, oui. Oui, parce que par eux-mêmes, ils étaient pas, ils n'ont pas fait la preuve des mineurs. Ben, c'est des mineurs, quoi. Ils étaient mariés, mais ils étaient parents. Mais pas obligatoirement, ça dépend où vous allez vivre après. Pardon? Ils ont 500 ans. Knan? Oui, alors ça, c'est un peu compliqué, Knan. C'est possible que Ham, il a été, il a, normalement, ils n'avaient pas le droit d'avoir des relations conjugales et on dit que Ham, mais bon, Ham est le quatrième, il n'est pas le premier enfant, donc, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Quand vous dites d'où il sort, il est peut-être né bien après. Il faut mettre un peu d'élastique dans le. Oui, vous êtes. Je ne mets aucune transgression. Simplement, de Rachi et de. C'est pas la première chose qu'il fallait faire. Le Mashgiach, il a donné un exemple. Hein. Tu t'installes, la première chose que tu installes chez toi, c'est un canapé. Avant d'y mettre une table et des chaises.
D'abord,
Le blé. Ouais.
il
Alors, après, comme il s'est profané, alors maintenant, il y a une profanation qui a continué, quoi. Il allait jusqu'au bout de la profanation. Qui? Yaakov, quand il envoie, il descend en Égypte, il envoie, non mais il envoie ce qui est écrit dans le Passouk, c'est qu'il a envoyé Yehuda pour arranger les choses. Mais Chazal dit qu'il a envoyé Lévi comme Rosh Yeshiva.
Ah, donc, c'est alors, peut-être.
On ne sait pas, peut-être, effectivement. Il faut peut-être, bon, on n'a pas tout, c'est pas toujours le cas. Il y a des situations de crise. Quand les Yeshiva de Mir étaient partis pour aller à Shanghai, ils n'ont pas vérifié d'abord ce qu'il y avait. Ils sont partis et après, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé miraculeusement une choule qui avait été construite, on ne sait pas pourquoi, mais dans laquelle ils ont pu faire le shiurim, quoi.
Est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec Noah, là, le vin dans cet ordre, puisqu'on parle d'un ordre, et là, il a eu.
C'est ce que Rachid fait. L'ordre n'a pas été respecté. Il existe un ordre naturel, comme celui de mettre des chaises avant un canapé, une chaise et des tables avant un canapé, hein, de planter d'abord, fabriquer d'abord du pain et après du vin, parce qu'on peut se débrouiller avec du pain et de l'eau.
Mais cet ordre-là, il a été déduit peut-être à partir des conséquences de ce qui s'est passé après, et on essaie de remonter ensuite l'origine, qu'est-ce qui a fait que il s'est saoulé, ou
Non,
bien est-ce que c'était pas
je
on a.
pense que c'est je pense que c'est du bon sens de le fait de produire d'abord du pain, qui est la nourriture de base, et le vin est un certain luxe, disons. On peut. Ce qui est intéressant, c'est que dans la Teva, dans l'arche, ils ont mangé. Est-ce qu'ils avaient pris des matzot parce que c'est plus facile à conserver que du pain? Ou le pain, de toute manière, c'était tout miraculeux, donc le pain, c'est peut-être. Est-ce qu'ils avaient pris du vin avec eux? Pas, on ne sait pas. Ils ont pris ce qu'il fallait, je ne sais pas. Voilà, on va rester là. Donc on a une prochaine bouteille là.